Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Fillette, un phallus géant. Maman, une araignée gigantesque. La renarde, une énorme sculpture aux multiples mamelles, à la tête coupée et à la gorge tranchée, selon elle, un portrait de sa mère. De ses œuvres, Louise Bourgeois disait qu'elle lui permettait d'exorciser ses démons. Dans mon art, je suis la meurtrière. Dans mon monde, la violence est partout. Une fois qu'une sculpture est achevée, disait-elle, son but est rempli et elle a éliminé les angoisses qui étaient les miennes. Ces angoisses ont disparu pour toujours, elles ne reviendront pas. Je le sais, ça marche. En octobre 2012, Valérie Lang lisait un extrait de « Destruction du père, reconstruction du père », écrits et entretiens de Louise Bourgeois.
Valérie Lang lit des écrits de Louise Bourgeois.
Je m'appelle Louise Joséphine Bourgeois, je suis née le 24 décembre 1911 à Paris. Tout mon travail des 50 dernières années, tous mes sujets trouvent leur source dans mon enfance. Mon enfance n'a jamais perdu de sa magie, elle n'a jamais perdu de son mystère, elle n'a rien perdu de sa dimension dramatique. Je travaille à tous ces paysages, des paysages inconscients, doux, d'une extrême douceur. Même les œuvres cumulent, tout cela se rattache au même groupe. Ils sont anthropomorphes, mais ce sont en même temps des paysages. On pourrait considérer notre propre corps d'un point de vue topographique, comme une terre avec des collines et des vallées, des grottes et des cavités. Aussi, il me semble assez évident que la configuration de notre propre corps se retrouve chez notre mère, la terre. C'est de là que viennent ces paysages. Techniquement, il y en a de deux sortes. Le paysage coulé, en latex, que l'on ne peut pas réellement contrôler dans la mesure où il est coulé, et une espèce de paysage sculpté et taillé, dont les reliefs sont sculptés au ciseau et au maillet. Le dernier paysage que j'ai réalisé était composé de mamelles. Bon, imaginez une chienne ou une vache. Vous la mettez sur le dos et vous obtenez un paysage très intéressant, mobile, vivant, souple. Tout revient à ça. Si vous pressez un enfant nu contre votre sein nu, ce n'est pas la fin de la douceur, c'est le commencement de la douceur, c'est la vie même. Durant mon dernier séjour en Italie, je me suis intéressée, pour des raisons que je ne connais pas et que je ne me soucie même pas de connaître, à la rigidité qui est à l'opposé exact. J'ai réalisé une série, Femme tombée, mais aussi Femme perdue. La femme tombée est en état de choc et bon, de raideur. Elle tombe comme une flèche, elle ne s'écroule pas sur elle-même, elle tombe comme quelqu'un de très raide. La femme tombée est revenue après de nombreuses années en marbre. Bien sûr, elle n'a pas de bras et elle tombe la tête la première. Il y avait un autre portrait, dans la mesure où toutes ses œuvres sont des portraits. Où ma sœur apparaît sous la forme d'une femme enceinte, la femme enceinte à la jambe de bois. Ça fait référence à ma sœur qui avait un genou raide. En fait, elle avait une jambe de bois. Cela me dérange beaucoup car cela lui donnait une allure bizarre lorsqu'elle marchait. En plus de ça, elle se servait d'une canne et lorsque j'étais enfant, cela m'impressionnait. Je percevais ça comme quelque chose de menaçant et de triste. Elle n'a jamais eu d'enfant, alors pour lui faire plaisir, en geste d'amour, envers ma sœur Henriette, je l'ai représentée sous la forme d'une énorme femme enceinte avec une jambe de bois. Elle aurait apprécié. Paysage inconscient. Je veux dire qu'il s'agit de quelque chose dont on ne veut pas, qu'on subit. Inconscient renvoie quelque chose de volcanique dans sa tonalité, et pourtant on ne peut rien y faire. On ferait mieux de l'amadouer, de l'accepter, et même de l'aimer si on le peut, parce que ça pourrait bien prendre le dessus, on ne sait jamais. Par exemple, cela n'a rien à voir, mais l'association est là d'une curieuse façon. L'un des premiers problèmes auxquels j'étais confrontée, qui m'a poursuivie durant toute ma vie, s'est passé alors que je devais avoir 5 ou 6 ans. C'était une conversation dans le jardin entre mon père et mon grand-père. Mon grand-père m'a regardée et il a déclaré sur un ton solennel à mon père « Cette petite fille, cette petite Louise, elle va te faire souffrir ». Voilà ce que mon grand-père a dit et je me souviens de ma réaction. J'ai pensé, Louise, tu ferais mieux d'être sur tes gardes parce que tu es tombée dans une maison de fous. Je l'ai trouvé totalement imbécile et je pensais que je ferais bien de faire attention à mon petit corps parce qu'ils étaient ridicules. Je ne peux pas mieux exprimer cela qu'en disant que je pensais qu'ils étaient fous, que je devais me méfier, me ressaisir, essayer de traverser la pièce et les considérer comme ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des crétins pontifiants. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ma mère m'avait dit que j'étais très petite et en très bonne santé, mais je la croyais. Mon problème, c'était de traverser la pièce et de ne pas tomber entre les chaises. Ce que je veux dire, qu'il faut faire avec des forces qu'on ne peut tout simplement pas contrôler, encore moins comprendre, et qu'on doit se contenter de faire attention, d'assurer sa survie physique. Dans cette histoire avec le père et le grand-père, l'enfant, d'une façon pathétique, était totalement seul. Il ne pouvait pas compter sur ses adultes ridicules et il ne pouvait s'appuyer que sur le moi physique et le moi raisonnable pour évaluer ce dont il était capable et il ne pouvait compter sur absolument personne. Eh bien, ce que j'essaie de dire, de souligner, c'est l'ambivalence du petit enfant qui a du mal à se tenir debout et cela s'applique à tout mon travail.
Valérie Langlizet, des écrits de Louise Bourgeois.
Cette émission a été diffusée la première fois, le 1er octobre 2012, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
C'est ça. La femme de l'anglot est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote.
C'est ça.
Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse. Et elle boursicote. Il cuisine. Et puis elle popote.
C'est ça.
Découvre, par exemple, il découvre un vaccin, il découvre et elle dégote.
C'est ça.
Il parle, elle parlote. Alors, il tousse, puis elle toussote. Et alors quand il siffle, n'est-ce pas, il siffle comme un merle, et puis elle sifflote. Et alors on entend le merle qui siffle dans les arbres, elle sifflote.
C'est ça.
J'ai dit, je vous répète, il vit, elle vivote. Sans dot. Elle se fagote et se chapote et sa culotte comme une cocotte. Charlotte l'idiote, elle vivote. Et puis alors quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas? Et puis elle touchote. Ça n'a aucun effet. Ouhou.
C'est ça.
Ouhou. Ouhou.
C'est ça.
Ouhou. La femme de l'amigo est une amigote. La femme de l'anglot est une anglotte. La chamotte est la femme du chameau.
C'est ça.
La crapote est la femelle du crapaud.
C'est ça. C'est ça. C'est ça.
Ouhou. Ouhou.
C'est ça.